VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 21 novembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cherti Diagne Gadio, arrêté et inculpé à New York pour corruption.
Au Zimbabwe, une procédure de destitution attendue ce mardi contre le président Robert Mugabe, qui refuse de quitter le pouvoir.
En République démocratique du Congo, 56 personnes ont été tuées entre avril et octobre 2017 dans des manifestations politiques, selon la CENCO.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, demande à la CPI de se saisir du dossier sur la vente de migrants africains comme esclaves en Libye.
Les États-Unis inscrivent à nouveau la Corée du Nord sur leur liste des États soutenant le terrorisme.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cherti Diagne Gadio, et le responsable d'une ONG basée à Hong Kong et en Virginie, dans l'Est des États-Unis, ont été inculpés par la justice américaine dans une affaire de corruption de hauts responsables au Tchad et en Ouganda. Des détails avec Yakuba Ouedraogo.
Cherti Diagne Gadio, 61 ans, et Chiping Patrick Ho, 68 ans, sont accusés d'avoir corrompu pendant plusieurs années des hauts responsables de ces deux pays afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise. Les pots de vin représentent plusieurs millions de dollars selon un communiqué du ministère américain de la Justice publié lundi. Des responsables au haut niveau des gouvernements des deux pays sont soupçonnés d'avoir reçu des pots de vin, a indiqué le ministre adjoint de la Justice, Kenneth Blanco, citant le président du Tchad et le ministre ougandais des Affaires étrangères sans communiquer leur nom. Le ministère n'a pas non plus dévoilé le nom de l'entreprise pétrolière chinoise. L'ancien ministre sénégalais a été arrêté vendredi à New York et présenté devant un juge le lendemain, tandis que M. Ho a été arrêté samedi et présenté à un juge lundi. Les personnes inculpées sont soupçonnées d'avoir, entre autres, fait transiter près d'un million de dollars par l'intermédiaire du système bancaire new-yorkais. En échange d'un pot de vin de 2 millions de dollars, le président du Tchad aurait offert à l'entreprise pétrolière chinoise des droits pétroliers dans le pays sans passer par un appel d'offres international. L'ancien ministre sénégalais aurait joué un rôle central dans cette affaire.
Au Zimbabwe, une procédure de destitution doit être engagée mardi à l'encontre du président Robert Mugabe qui refuse de quitter le pouvoir. Entre-temps, l'armée a tenté de calmer la population au lendemain du refus de M. Mugabe de céder son fauteuil présidentiel. La population veut, encore une fois, envahir les rues aujourd'hui pour exiger son départ, Eric Manirakiza.
Le chef de l'armée s'est lui-même chargé de rassurer les Zimbabwéens en appelant au calme et à la patience. Dans une allocution télévisée, le général Constantino Chiwenga a affirmé que le président Mugabe a accepté une feuille de route lui donnant plusieurs garanties pour sortir de l'impasse. Il a annoncé le retour imminent au pays de Emmerson Mnangagwa, le vice-président déchu, assurant l'existence des contacts avec M. Mugabe. Samedi, la population est descendue en masse dans les rues pour exiger le départ de Robert Mugabe. Dimanche soir, contre toute attente, le vieux dirigeant a ignoré cet ultimatum, provoquant la colère des manifestants. Les anciens combattants de la guerre d'indépendance ont à nouveau appelé à manifester pour aujourd'hui. Le général Constantino Chiwenga s'est dit encouragé par les nouveaux développements, sans donner plus de précisions. La direction de son parti, la ZANU-PF, a décidé d'engager une procédure de destitution devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette démarche prévoit la révocation du président à la majorité simple avant la création d'une commission d'enquête pour formuler une résolution de destitution. La majorité des deux tiers est requise pour approbation. La SADC se réunit également aujourd'hui à Luanda pour se prononcer. Le gouvernement britannique a estimé que Robert Mugabe avait perdu le soutien du peuple et de son parti, mais a découragé tout recours à la force.
En République démocratique du Congo, 56 personnes ont été tuées entre avril et octobre de cette année dans des manifestations politiques. C'est ce que révèle un rapport de monitoring réalisé par la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Un rapport aussitôt rejeté par le gouvernement. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Sur les 56 personnes tuées, 52 l'ont été par balle, une par gaz lacrymogène, en plus de 3 policiers tués par des manifestants, précise le rapport. L'Église catholique au Congo déplore le fait que les manifestations publiques organisées par les partis politiques de l'opposition politique, les organisations de la société civile et les mouvements citoyens qui sont en dehors du gouvernement ont été étouffées, empêchées, interdites et dispersées par la police avec l'usage des gaz lacrymogènes et des balles réelles. Dans ce même document, l'épiscopat constate par contre que les manifestations ou réunions publiques organisées par les partis politiques de la majorité présidentielle ainsi que celles organisées par les partis politiques de l'opposition partie prenante au gouvernement se sont déroulées en toute quiétude. Il est à noter selon le rapport que 355 cas d'arrestation mêlés à la police, au FRDC et autres services spécialisés ont été enregistrés sur la période allant d'avril à octobre 2017. En réaction, le gouvernement se dit assez embarrassé. Sans identité des victimes ou des présumées victimes, nous ne savons pas comment le gouvernement peut entreprendre une enquête ou une investigation pour savoir exactement de quoi il s'agit, a dit Lambert Mende Omalanga à Top Congo FM. Pour lui, la Senko n'avance que des chiffres. Ce nombre peut aider un gouvernement à faire une investigation, indique le porte-parole du gouvernement, qui souligne que ce rapport de la Senko ne vise qu'à jeter du discrédit sur le gouvernement de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Africa.
Togo, le président Faure Gnassingbé a affirmé hier à Abidjan qu'un dialogue avec l'opposition était en cours de préparation et qu'il pourrait avoir lieu d'ici à quelques semaines. On écoute le leader congolais.
Les situations, quelles que soient les évolutions, tout doit se terminer par le dialogue. Et ce dialogue est en cours de préparation. Pour dialoguer, il faut être deux. Donc, ma seule voix ne suffit pas. Les tractations sont en cours. Je pense que d'ici quelques semaines, ce dialogue pourra s'ouvrir.
Vous avez rectifié de vous-même. C'était le leader togolais, Faure Gnassingbé.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a appelé lundi soir la CPI à se saisir du dossier sur la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. L'esclavage est un crime contre l'humanité, a souligné M. Issoufou à la radio nationale.
Le franco-rwandais Claude Muhayimana est renvoyé devant la cour d'assises en France pour complicité dans le génocide de 1994 au Rwanda. Il est accusé d'avoir transporté des miliciens qui ont perpétré des massacres de Tutsis. Morgane Guériec nous en dit plus.
Le juge d'instruction a ordonné le 9 novembre le renvoi aux assises de cet ancien chauffeur d'hôtel pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité par aide et assistance, tout en abandonnant les poursuites pour une partie des faits conformément aux réquisitions du parquet de Paris. Claude Muhayimana est renvoyé devant la cour d'assises pour sa responsabilité dans l'attaque en avril 1994 de l'école de Niamishaba dans la préfecture de Kibouye. Et pour les massacres commis sur les civils Tutsis réfugiés dans les collines avoisinantes de Karungi, Gitwa et Bisesero entre avril et juin, selon ses sources. Le juge a en revanche abandonné les poursuites contre M. Muhayimana pour les tueries de masse qui ont fait des milliers de morts le 17 avril dans l'église et hôtel Homme Saint-Jean de Kibouye, puis le lendemain dans le stade Gatwaro, ainsi que pour le meurtre de collègues de son hôtel. C'est la troisième fois que la justice française ordonne un procès en lien avec ce génocide qui a fait 800 000 morts, selon l'ONU, très majoritairement au sein de la minorité Tutsi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont décidé d'inscrire à nouveau la Corée du Nord sur leur liste noire des États soutenant le terrorisme, et ce pour accentuer la pression sur Pyongyang à cause de son programme nucléaire. C'est ce qu'a annoncé hier le président américain Donald Trump. Anastasie Tudiech.
Le président avait promis de prendre cette décision après son récent voyage en Asie. L'un des principaux arguments de cette mise au ban est le meurtre avec un agent neurotoxique de Kim Jong-un, demi-frère en disgrâce du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en février en Malaisie, pour lequel le régime nord-coréen est soupçonné. Le régime de Kim Jong-un rejoint ainsi les autres ennemis des États-Unis inscrits sur cette liste, l'Iran et la Syrie, deux des autres principales bêtes noires de Washington, et le Soudan, qui rentre toutefois progressivement dans les bonnes grâces américaines. Pyongyang avait déjà figuré sur cette liste noire de 1988 à 2008 en raison de son implication présumée dans l'attentat à la bombe contre un avion sud-coréen qui avait fait 115 morts en 1987. l'administration républicaine de George Bush l'avait retiré pour favoriser des négociations sur le nucléaire qui ont finalement échoué.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Arzuma Compaoré.
Le Kenya demande des comptes à la Tanzanie pour une vente aux enchères de 1000 vaches kenyanes. Ces dernières seraient entrées illégalement sur le territoire tanzanien en quête de pâturage. Le gouvernement tanzanien a également brûlé des poussins introduits illégalement. Le Kenya et la Tanzanie sont membres avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud de la Communauté d'Afrique de l'Est, une organisation sous-régionale au sein de laquelle des rivalités, notamment économiques, ne manquent pas. Selon les données de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, les banques internationales dominent aujourd'hui le marché bancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec 56,6% des actifs à la fin de l'année 2016. Les banques sous-régionales, quant à elles, cumulent 40,1% de parts de marché. Les banques mutualistes ne représentent de leur côté que 2% des actifs. Le Trésor public burkinabé lance cette semaine sur le marché de l'Union économique monétaire ouest-africaine une émission d'obligations assimilables du Trésor par adjudication portant sur un montant de 60 milliards de francs CFA. L'échéance est de 12 mois pour un taux d'intérêt multiple et une valeur nominale unitaire de 1 million de francs CFA.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Edessa, bonjour à tous.
Le grand ménage continue dans le foot italien.
Oui, le président de la Fédération italienne de football, Carlo Tavecchio, qui a démissionné hier lors d'un conseil fédéral une semaine après l'élimination de l'équipe nationale en barrage d'accession à la Coupe du Monde. De nouvelles élections doivent désormais être organisées dans un délai de 90 jours. Sachez que l'Italie du football n'a plus de président de la Fédération, plus de sélectionneur, plus de président de la Serie A, l'équivalent de la première division, ni de la Serie B.
Avant-dernière journée ce mardi en Ligue des Champions en Europe,
le groupe E est l'une des rares poules où aucune équipe ne s'est détachée. Liverpool, en tête avec 8 points, n'a pas un déplacement facile sur la pelouse de son dauphin, Séville, 7 points. Pendant ce temps, le Spartak Moscou, 5 points, est en embuscade à l'heure de recevoir la modeste équipe slovène de Maribor. Manchester City, impressionnant en championnat d'Angleterre, a logiquement dominé sa poule F et est déjà qualifié avant d'accueillir Feyenoord. Le Shakhtar Donetsk et Naples, qui s'affrontent ce mardi, vont se disputer la deuxième place du groupe. Monaco, en grand danger, n'a plus son destin entre les mains. Le club de la Principauté doit battre Leipzig dans le groupe G et espérer un faux pas de Porto sur la pelouse du Besiktas. Dortmund est dans une situation plus périlleuse encore. Dans la poule H où figurent Tottenham et le Real Madrid, c'est simple. Si les Madrilènes s'imposent sur la pelouse de la Poel Nicosie, ce qui est probable, les Allemands devront oublier la Ligue des Champions cette saison.
Le Borussia doit battre Tottenham pour continuer à rêver.
Oui, et le buteur de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, sera de retour après avoir été suspendu un match par son club pour raison disciplinaire. Le Gabonais ex-ballon d'or africain avait été privé de déplacement à Stuttgart pour un retard à l'entraînement et le tournage d'une vidéo promotionnelle sans autorisation.
Un Sénégalais s'engage avec le Gazélec d'Ajaccio.
Libre de tout contrat, l'attaquant international sénégalais Ibrahima Touré revient en France. Après une dernière expérience en Chine, l'ancien joueur de Metz et de Monaco s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le Gazélec d'Ajaccio. Allez, enfin Idrissa, avec vous, les derniers résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Minnesota Timberwolves et Charlotte Hornets, 102-118. Cleveland Cavaliers et Detroit Pistons, 116-88. Indiana Pacers et Orlando Magic, 105-97. Utah Jazz et Philadelphia Sixers, 86-107. LA Clippers et New York Knicks, 85-107. Portland Trail Blazers et Memphis Grizzlies, 100-92. Washington Wizards et Milwaukee Bucks, 99-88. Oklahoma City Thunders et New Orleans Pelicans, 107-114. Boston Celtics et Dallas Mavericks, 110-102. Atlanta Hawks et San Antonio Spurs, 85-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Cour suprême du Kenya a rejeté hier les deux recours demandant l'invalidation de la présidentielle d'octobre. Elle rend ainsi officielle la victoire d'Uhuru Kenyatta, réélu à la tête du pays avec plus de 98% des voix. L'investiture du président kényan, 56 ans, au pouvoir depuis 2013, aura lieu le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. Raissa Girondin a joint Mohamedou Mouni Roussi, maître de conférence en droit à l'Université de Thiès au Sénégal.
Vous savez, la commission électorale ne transmet que des résultats provisoires. Moi, je pense qu'il faut avoir une lecture sociopolitique de la situation kényane qui peut également donner une sorte de vitrine à l'ensemble des élections en Afrique. Lorsque un président sortant est poussé au second tour, il va perdre. Parce qu'en général, lorsque vous êtes président sortant, vous perdez au second tour. Et en Afrique, l'exception que nous avons aujourd'hui, c'est le Kenya. Donc, une élection ne se boycotte pas. Deuxièmement, il y a des irrégularités, il faut le désigner, le pointer du doigt. Concernant cette deuxième élection, beaucoup de bureaux n'ont pas été ouverts. On est passé de 79% de participation à la première élection, tombant à 39%. Ça prouve qu'il y a un problème de légitimité qui se pose. Et donc, les règles du jeu doivent être acceptées par les acteurs du jeu, qui, une fois sur place, ne doivent pas également tromper le jeu des règles.
À la veille là, de la décision, il y a eu énormément d'échauffourées hein, qui ont éclaté à Nairobi. Et pensez-vous que le regain de tension durera dans le pays?
C'est fort possible en raison de l'abstention qu'il y a eu. Je l'ai entendu, lui, Odinga, parler de désobéissance civile, parce que c'est une sorte de droit que le peuple a par rapport à un pouvoir qui vient l'opprimer. Mais il faut toujours se garder d'aller au-delà de tout ça, parce que le Kenya, en dehors de toute considération géopolitique et idéologique, reste la plaque tournante de l'Afrique de l'Est. C'est un pays qui commence à décoller. On ne voudrait pas que des problèmes politiques viennent amenuiser tout cet effort économique et social que connaissait ce beau pays. Donc pour moi, la Cour suprême est la juridiction la plus importante dans l'ordre judiciaire. Elle a rendu sa décision après avoir remis en cause la volonté du pouvoir en place. Il ne faut pas, pour des raisons plutôt personnelles, pour des raisons de calcul politique, balayer l'ensemble de ces acquis économiques et sociaux. La Cour suprême a rendu sa décision. Ils ont boycotté. Ceux qui sont allés voter ont voté pour l'actuel président qui est Kenyatta. Je pense que le bouchon est tiré, il faut boire le vin jusqu'à la lie.
C'était Mohamedou Mouni Roussi de l'Université de Thiès au Sénégal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Nations Unies ont célébré hier la journée de l'enfance, mais à Goma, en République démocratique du Congo, la population s'inquiète des récents enlèvements d'enfants contre des demandes de rançon avec des actes de torture, voire pire parfois. Solange Niamoulissa a joint Vanessa Kilanji, présidente du Parlement d'enfants de Goma, une ONG locale de défense des droits des enfants.
Jusque là, notre commission de monitoring, nous avons enregistré 13 cas de kidnapping ici dans notre ville, c'est depuis janvier. Donc nous avons réglé 3 cas et nous manque encore 10 cas que nous devons absolument résoudre. Et nous espérons que nous allons trouver des solutions. Par contre, les 3 enfants sont déjà dans les mains de leurs familiers. Nous avons nos propres techniques pour trouver les enfants. La police nous aide parfois. Donc avec la police, nous avons pu retrouver ces enfants. Il y a eu 2 enfants tués par ce kidnapping même.
Comment expliquez-vous ces phénomènes d'enlèvement d'enfants à Goma?
Ces phénomènes d'enlèvement de kidnapping ici à Goma se dit souvent par des conflits entre familles. Si on a des conflits entre les familles, ils trouvent mieux d'enlever un de leurs enfants pour les faire juste souffrir. Aussi, il y a beaucoup de bandits dans la ville par-ci par-là. Souvent aussi, c'est la pauvreté qui cause tout ça.
Est-ce que ces ravisseurs sont connus? Est-ce qu'ils sont réprimandés?
Quelques-uns des ravisseurs sont connus déjà. Il n'y a pas longtemps, on les a jugés à la tribune ici, en ville. Certains, on les a attrapés, ils sont jugés, ils sont condamnés aussi par la loi.
Est-ce que l'État fait quelque chose par rapport à ces problèmes?
Jusque-là, c'est vraiment la sécurité qui doit s'améliorer. Donc, Je crois que l'État va s'en charger et nous l'espérons vraiment, et la police aussi. Ils doivent vraiment s'impliquer. La sécurité doit être garantie à tous les enfants. Donc les adultes aussi sont en train d'être enlevés. Imaginez-vous maintenant pour l'enfant, ça sera comment? Donc ils doivent améliorer vraiment leur sécurité.
Quelles sont les solutions préconisées pour éviter plus de cas d'enlèvement d'enfants?
Pour éviter plus le cas d'enlèvement d'enfants, nous, le Parlement d'enfants, nous sommes là pour plaider auprès des autorités et nous garantir vraiment à 100% la sécurité pour toute la ville de Goma, les parents et ainsi que les enfants, de veiller vraiment sur ça parce qu'on ne doit pas toujours attendre que ce soit les autorités qui puissent nous garantir la sécurité alors qu'on n'a pas encore commencé à la maison. Nous sommes en train d'appeler tous les parents, de veiller sur les enfants dans les quartiers, dans la maison, de toujours les surveiller. Et si vous voyez un adulte est là avec un enfant qui a tendance de l'amener, il faut agir sur place même. Et pour les enfants, de ne pas sillonner dans la ville, de ne pas aller je ne sais où, surtout la nuit. Nous interdisons que les enfants puissent marcher pendant la nuit.
C'était Vanessa Kilanji, présidente du Parlement d'enfants de Goma, une ONG locale de défense des droits des enfants.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Tchad, une partie des parents de jeunes réfugiés soudanais refuse d'intégrer les curricula tchadiens. Tel est le cas au camp d'Amnabak, situé dans l'est du pays. Une mission conjointe primature, ministère de l'Éducation nationale et HCR, a séjourné la semaine dernière dans ce camp lors d'une campagne de sensibilisation. Reportage d'André Kotmajingar.
En 2015, nous avons fait le tour de tous les camps, mais si aujourd'hui on met assez de temps dans ce camp, c'est parce que ce camp n'a pas respecté à 100% ce programme.
Elle, c'est la chef de mission, Madame Bayro Togner Ramadi Suzanne, assistante auprès du conseiller à l'éducation nationale à la primature. Le camp d'Amnabak est le seul camp des réfugiés soudanais installé dans l'est du Tchad depuis 2003 qui a opposé résistance à l'intégration du système éducatif tchadien. Atahir Mustafa Agar, inspecteur pédagogique du camp, évoque les raisons de cette résistance.
Dès le début de leur arrivée ici au Tchad, ils n'ont pas commencé par le curricula tchadien. Parce que c'est un curricula qui est différent de notre curricula. Nous avons demandé à ce que ça se fait de manière graduelle. On commence par le bas niveau et après on entame avec le plus haut niveau. Parce que le curricula s'est lancé une fois pour tout et que ça serait un peu difficile pour les classes des examens d'entamer directement et passer des examens dans un autre curricula avec les autres élèves du niveau national.
Bamaï Mamadou, président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Tchad, associé à cette mission, parle de l'importance de l'intégration de ce curricula tchadien dans les écoles des camps des réfugiés soudanais.
Plus de 10 ans, ils sont ici. S'ils n'appliquent pas le curricula tchadien, ils n'auront pas la possibilité de faire avancer leurs enfants dans les études supérieures. Et Dieu merci, ils ont compris que c'était une erreur. Ailleurs, les réfugiés n'ont pas certaines facilités que ici. Et le gouvernement tchadien et les humanitaires ont accordé à ces réfugiés. Donc, le curricula tchadien leur sera un avantage parce que leurs enfants apprendront non seulement l'arabe, l'anglais qu'ils en ont et le français.
Des engagements et recommandations fermes ont été signés pour le respect strict de ce système dans cette école. Toutefois, la chef de mission, Mme Bayro Togner Ramadi Suzanne, se dit optimiste quant à l'application de ses engagements.
Un adage dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc, ils ont pris des engagements et on promet revenir faire le suivi pour voir si cette décision est effectivement appliquée.
Pour encourager cette intégration, Chérif Youssouf Dogo, un élève qui a obtenu son baccalauréat avec mention bien dans un autre camp où l'intégration du système éducatif tchadien a été effective, est primé par les hautes autorités du pays. Il est classé parmi les 100 meilleur élève au niveau national et occupe le premier rang des réfugiés installés au Tchad ayant composé le baccalauréat tchadien. André Kodmajingar de retour de Iriba dans la région de Wadi Fira, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Côte d'Ivoire, c'est la fin du calvaire pour une centaine de migrants ivoiriens bloqués depuis des mois en Libye. Ils sont arrivés hier soir à Abidjan. Sur place, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
C'est aux alentours de 19h GMT que l'appareil qui transportait ces migrants, au nombre de 155, donc entre 29 femmes, a foulé la piste de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des migrants soulagés d'avoir quitté la Libye, un pays que certains d'entre eux qualifient de véritable enfer. Moussa Traoré, 21 ans.
Je suis très content parce que je viens de l'enfer.
Et pourquoi vous dites que vous venez de l'enfer?
Parce que la Libye n'est pas un bon pays, un pays très 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 dangereux. C'est la prison seulement. La prison, c'est pas une petite prison.
La prison, c'est-à-dire, vous étiez en prison?
Oui, j'étais en prison en Libye.
Et qui vous a mis en prison?
Les Libyens.
Pourquoi?
De cause non valable.
Vous avez été maltraité, hein?
Maltraité partout.
Niadou Niapo se présente comme le porte-parole de ces migrants ivoiriens rapatriés de Libye, content certes d'être à Abidjan, mais il a une pensée pour ses camarades et tous ces jeunes Africains bloqués dans ce pays.
On était en train de bosser, c'est là qu'ils sont venus ramasser les gens. Parce qu'il y a chez eux, lorsque tu vois des noirs, c'est des gens qui coûtent assez d'argent. Et il y a certaines filles aussi qu'ils ont pris, violées dans des coins. En tout cas, c'est du désordre. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas tous ici. Parce qu'on a laissé encore des frais derrière. Et ce qu'on a laissé derrière, on se pose plein de questions. Parce qu'on sait, on connaît la réalité de là-bas. Donc on sollicite un peu le gouvernement de précipiter les choses. On sollicite aussi OIM de précipiter les choses. Et on sollicite les communautés et les pays voisins. Parce qu'on n'était pas les seuls. Il y avait des Guinéens, il y avait des Burkinabés. Tous ceux qui sont noirs, qui sont en Afrique de l'Ouest, je pense bien qu'on était tous là-bas. Donc je fais appel quand même à ces présidents-là.
Quant à cette dame, elle déplore les conditions de son rapatriement.
Ça me désole d'être au pays comme ça. Je compterais rentrer un jour au pays, mais pas comme ça.
Donc vous n'êtes pas contente d'avoir été rapatriée?
Oui. Je veux payer mon billet d'avion, puis venir voir ma famille en Côte d'Ivoire, mais pas être rapatriée. Quand on est rapatrié, on vient avec un sachet. Pourtant, je suis reparti avec une valise. Je ne peux pas venir avec un sachet. Et puis, mon enfant comme ça, sans chaussures, rapatrié comme ça, je ne suis pas content du tout.
Pour la prise en charge et la réinsertion de ces migrants, la Côte d'Ivoire peut compter sur un fonds mis à sa disposition par l'Union européenne. Issiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur.
Alors, la prise en charge, il y aura plusieurs étapes. D'abord, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui éligible au fonds fiduciaire de l'Union européenne. Nous, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est le profilage des migrants, les raisons de départ. Nous allons offrir un hébergement de courte durée, peut-être de 3 à 4 jours, dans des zones que nous allons déterminer. Nous seuls savons où nous allons mettre ces personnes qui seront dans d'excellentes conditions d'hébergement, et grâce à l'appui de l'Union européenne, aussi de l'OIM. Et nous allons ensuite continuer, parce qu'il y a le projet de réintégration des migrants, qui est d'une valeur de 2,7 millions d'euros, et qui concerne 750 migrants, dont 550 peuvent provenir d'un pays d'Afrique, et 200 de l'Europe. Donc ces personnes qui viennent d'arriver sont éligibles au projet du fonds fiduciaire. Ils pourront nous soumettre des projets individuel ou collectif que nous pourrons prendre en charge après le profilage.
Est-ce que vous continuez en Libye là-bas de sensibiliser les Ivoiriens qui y sont?
Écoutez, nous on continue la sensibilisation.
Le gouvernement ivoirien prévoit un autre rapatriement ce mercredi 22 novembre. 260 migrants sont concernés par ce retour au pays. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.